Le projet d'accord proposé confirme notre objectif central, vital même, de contenir l'augmentation de la température moyenne bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré.
Voilà, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, Agnès, hein, c'était en décembre 2015, alors que venait d'être scellé l'accord sur le climat, s'efforcer donc à limiter la hausse des températures à 1,5 degré, ce n'était pas suffisant pour certains États, apparemment.
Non, surtout pour les États les plus vulnérables. C'est d'ailleurs pour cette raison que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, s'est vu commander un rapport spécial par l'ONU pour voir justement comment rester dans la limite d'un réchauffement d'un degré et demi. Roland Séferian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue à Météo France et vous êtes l'un des co-auteurs du chapitre 2 de ce rapport spécial qui vient d'être adopté. Alors il y a plusieurs constats et un élément marquant d'emblée, c'est qu'entre une planète plus chaude d'un degré et demi ou de 2 degrés, il y a vraiment des différences de taille.
Tout à fait. Si on peut prendre comme exemple juste la hausse du niveau des mers, en l'occurrence la différence entre 1,5 degré et 2 degrés, c'est 10 cm. 10 cm, vous allez dire c'est peu, mais en fait lorsqu'on regarde... Lorsqu'on met ces 10 cm au regard du nombre de populations qui vivent soit dans des milieux insulaires, soit sur le bord des côtes, ça représente 10 millions de personnes. Donc 0,5 degré, c'est à mettre en regard avec 10 millions de personnes menacées par une hausse du niveau de la mer.
Et des effets pas seulement sur le nombre de personnes menacées, mais j'imagine aussi sur la biodiversité marine.
Tout à fait, sur la biodiversité. On estime par exemple qu'une différence entre 1,5 degré et 2 degrés pourrait impacter par exemple en moins 50% des terres émergées et donc avoir des impacts délétères sur les écosystèmes naturels, avec des risques de feu accrus, des sécheresses accrues, par rapport à, et aussi des écosystèmes anthropiques, des écosystèmes humains, donc par exemple une recrudescence des vagues de chaleur ou des îlots de chaleur urbains comme dans les villes, comme dans la ville de Paris par exemple.
Qu'est-ce que ça peut changer par exemple dans une ville comme Paris, une différence
C'est une persistance des vagues de chaleur lorsqu'elles arrivent, parce que c'est un phénomène météorologique mais qui a une translation dans le monde du climat et qui a un sens en termes de tendance dans le réchauffement climatique. Et donc, c'est une persistance de ces vagues de chaleur. Donc, elles vont durer plus longtemps, mais c'est également une persistance dans leurs augmentations. Donc, elles vont être plus intenses en termes de réchauffement. Donc, on estime à l'ordre de 2, 3 degrés plus intenses ces vagues de chaleur. Et leur fréquence va être plus probable, en fait. Elles vont arriver plus souvent à 2 degrés qu'à 1,5 degré.
Roland Séferian, Agnès le disait un peu tout à l'heure, il y a une sorte de tonalité là dans ce rapport du GIEC qui serait presque, en tout cas, du côté de l'espoir, plus que le fait de dramatiser justement la situation. Il y avait une volonté là dans le message, justement, de ne pas être trop anxiogène.
Alors, tout à fait. Alors, je vais vous le donner en deux temps. Le premier temps, je vais vous le donner en tant que climatologue, et le deuxième temps, je vais vous le donner en tant que citoyen. En tant que climatologue, je trouve ça plutôt intéressant de voir ce rapport sur le côté vert à moitié plein.
Voilà, on peut le faire, il y a encore des efforts on peut aboutir.
Voilà, dans la mesure où les progrès ou la connaissance scientifique a progressé depuis le dernier rapport du GIEC, et en l'occurrence, ces progrès nous ont permis de réévaluer à la hausse le budget carbone, c'est-à-dire notre reste à émettre, ce qui nous reste comme fenêtre de tir pour limiter le réchauffement en deçà de 1,5 degré. Donc le chiffre est plus important, il est quasiment doublé par rapport à celui qui avait été déjà estimé dans le précédent rapport du GIEC publié en 2013. Donc ça, c'est un signal positif, c'est que ça a été... On n'y est pas déjà, c'est-à-dire que les émissions passées ne nous emmèneront pas à dépasser 1,5 degré.
On a un petit bonus qui est le bienvenu finalement.
Voilà, on a un petit bonus qui est bienvenu.
Mais ça ne va pas nous inciter à dépenser plus.
Il faudrait plutôt que ça nous incite à transformer notre société.
Ouais.
Et en tant que citoyen, si je peux me permettre, dans la mesure où moi j'ai 35 ans et je suis un nouveau venu dans l'équipe... du GIEC. Moi, j'ai connu les rapports du GIEC quand j'étais en licence et ça m'a tout de suite passionné. Là, il faut savoir que c'est le premier rapport du GIEC qui décloisonne les différentes compétences. C'est-à-dire que ce rapport a permis aux climatologues, aux gens travaillant sur les impacts et aux scientifiques travaillant sur les mesures d'atténuation et les mesures économiques à mettre en place, à travailler en commun. Donc c'est la première fois où on aborde la question du changement climatique dans son ensemble, de manière transversale, aux interfaces, et c'est un bon espoir pour la recherche et pour les sociétés aussi, parce que c'est la seule manière d'aborder une réponse complète en fait, au système.
Donc ce que vous voulez dire aussi peut-être par là, c'est qu'être positif, c'est peut-être aussi faire passer le message éventuellement à des industriels ou des acteurs économiques qu'il y a des avantages justement à changer de modèle. Tout avec à fait. Cette vision plus combinée, plus transversale.
Tout à fait. En fait, ce rapport, en ayant une évaluation transversale de tous les grands thèmes du changement climatique, permet de montrer que l'adaptation ou le laisser-faire, donc continuer à émettre, donc l'adaptation à un changement climatique plus important que 2 degrés, coûtera plus cher que de mettre en place des mesures d'atténuation aujourd'hui et très rapidement.
Mais ça fait longtemps qu'on le dit, ça, quand même. Ouais. Hein.
Sauf que là, on enfonce le clou en ayant une étude vraiment quantitative des scénarios à bas niveau d'émission. Donc là, on compare vraiment 0,5 degrés, c'est pas beaucoup. Ouais. C'est des choses qu'on a déjà connues par le passé. Et là, 0,5 degrés, c'est le chemin qui nous reste à faire entre 2017, donc à évaluer à peu près 1 degré en moyenne globale, et 2050 à peu près, si on reste sur la tendance actuelle.
Ouais, mais vous dites aussi qu'il faut plus qu'un sursaut, il faut des changements radicaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre, quelle stratégie, justement, vous préconisez?
Alors, j'utilise 2 chiffres pour nous rendre compte un petit peu de l'ampleur du challenge ou du sursaut qu'il faudrait. C'est aujourd'hui l'humanité.
La révolution.
L'humanité émet 40 milliards de tonnes par ses activités, 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chaque année. Et ce que nous dit ce rapport, c'est que pour limiter le réchauffement en deçà d'un degré 5, il faudrait en 2030 arriver à n'émettre plus que 20 milliards de tonnes. Et donc c'est un changement conséquent, mais c'est un changement qui s'opère par différentes transformations profondes de la société et nos modes de consommation, mais également de nos modes de transport et enfin de nos modes de production d'énergie.
Et le deuxième chiffre, vous aviez un deuxième chiffre, non?
C'est 40 milliards au regard de 20 milliards.
Merci beaucoup Roland Séférian. Donc 1,5 degré, hein, objectif absolu, et de l'espoir pour y arriver. C'est quand même aussi intéressant de pouvoir le souligner. Merci à vous d'être venu aujourd'hui à la Une de la Science. Et puis Agnès, à très bientôt.
À bientôt.
Puisque demain, on retrouvera Axel. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un an après la désintégration de la sonde Cassini, eh bien, on continue d'apprendre des choses sur Saturne, son objet d'étude pendant 13 ans. La revue Science vient de compiler 6 publications dédiées à la planète géante gazeuse. Il est par exemple question de son champ magnétique aussi mystérieux que singulier, puisqu'à la différence des autres planètes, il est presque aligné avec l'axe de rotation de Saturne. Les scientifiques de la NASA ont aussi analysé la quantité de matière que la planète aspirait sur son premier anneau et affiné la composition chimique des échanges entre ces anneaux les plus proches. Dans cette pluie de matière, ils ont pu identifier, en plus de l'hydrogène et des silicates, des gaz comme le méthane, l'ammoniac, l'azote ou le dioxyde de carbone. 6 pieds sous terre, la vie est-elle possible? Eh bien, des chercheurs espagnols ont découvert plutôt par hasard des cyanobactéries à plus de 600 mètres de profondeur, également appelées algues bleu-vert. Ces bactéries photosynthétiques sont supposées dépendre du soleil pour survivre. Comment s'adaptent-elles donc à la biosphère profonde? L'hypothèse des chercheurs développée dans la revue TNAS, c'est qu'elles utilisent de l'hydrogène pour obtenir leur énergie. Un procédé qui permettrait de mieux comprendre la capacité de certains micro-organismes à survivre dans les déserts et les systèmes marins. Et puis, c'est un des signes qui permet de distinguer l'éléphant d'Afrique de son cousin d'Asie, ces crevasses, ces craquelures qui dessinent des lignes et des réseaux sur sa peau. Si elles sont si profondes, c'est parce qu'il ne s'agit pas de rides, mais de fractures de la couche externe de leur peau. C'est en tout cas ce que viennent de comprendre des chercheurs de l'université de Genève. Cette cassure est d'autant plus possible que la peau de ces éléphants africains s'épaissit en vieillissant. Une structure qui présente un avantage pour les pachydermes, retenir plus facilement l'eau afin de se rafraîchir durant les chaudes journées de saison sèche.